Bonjour tout le monde. Alors, on est ravis de vous accueillir pour cet apéro livre en visio, malheureusement. Vu que c'est le format apéro livre, si vous voulez mettre vos caméras, n'hésitez pas. C'est plus convivial pour tout le monde. C'est pas du tout. Enfin, c'est pas le format séminaire qui prime. Et comme ça, on pourra aussi échanger plus facilement. Alors, aujourd'hui, en fait, on est donc réunis pour cet premier apéro livre en visio. C'était donc une première initiative hein, de l'apéro livre de l'association. C'est faite en janvier 2020 et autour du livre de Judith Reynaud, de Blanc de plomb, histoire d'un poison légal. Et puis finalement, avec le confinement, on n'a pas pu continuer ces apéros livres qui se passaient au départ dans un bar dans le 18e arrondissement et qui était bien plus convivial avec un apéro dans les mains, mais n'hésitez pas hein, si vous avez envie de prendre un apéro, c'est le principe, même en visio. Donc, comme il y a d'autres sorties de livres qui sont cette année intéressantes, on a continué en visio et dès que ce sera possible, les apéros livres vont se refaire, on espère, en public, en présence, en présentiel, en présence réelle, je sais plus, on dit plein de choses en ce moment, mais bon. Voilà, alors pour cette première session en visio, on a décidé donc de faire la présentation du livre de Corinne Mette et de Didier Terrier qui s'appelle Les rythmes du labeur, enquête sur le temps de travail en Europe occidentale 14e-19e siècle. Je vais faire en bonne présentatrice, je vous montre le livre qui est là. Voilà, donc on a 1 heure à peu près pour discuter du livre. Ce qu'on s'est dit, c'est peut-être qu'on va prendre à peu près un quart d'heure pour présenter ce livre, ou en tout cas pour que les auteurs vous présentent ce livre. Puis ensuite, on aura un échange tous ensemble, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Toutes vos interrogations sur les différents livres, passages, vous avez les auteurs qui sont ici avec vous. Alors, donc, ce livre, c'est un livre qui a été coécrit par Corinne Mette et Didier Terrier. Donc, Corinne Mette, qui est professeure d'histoire moderne à l'université Gustave Eiffel, et Didier Terrier, qui est professeur émérite à l'université polytechnique des Hauts-de-France. Les deux auteurs, enfin, auteurs et autrices, sont spécialistes de l'histoire du travail, plutôt spécialistes donc pour Corinne Mette de l'histoire moderne, de l'époque moderne, et puis Didier Terrier, 18e puis 19e siècle. Ils ont fait le choix ici de faire un livre sur les rythmes du labeur sur un temps long. Donc on va essayer de le présenter maintenant en 10 minutes, un quart d'heure. Alors l'idée de cette présentation, c'est que je vais essayer de vous poser quelques questions. Didier et Corinne, et puis si vous êtes d'accord, vous pouvez à la suite de ces questions essayer de prendre un peu de temps pour nous répondre, et comme ça on pose quelques bases sur cette présentation de livre. La première question donc qu'on pourrait vous poser pour ce livre, c'est pourquoi avoir fait le choix de ce temps long, donc 14e-19e siècle, et pourquoi avoir choisi ces bornes chronologiques? Pourquoi commencer au 14e siècle et pourquoi finir au 19e siècle?
Alors, on va essayer de répondre relativement rapidement à cette question, évidemment, du choix effectivement qu'on a fait d'une histoire de longue durée, qui est un peu un pari, évidemment, une gageure, et peut-être qui est quelque chose d'assez téméraire. Les collègues ici nous le diront. Alors, pourquoi ces bornes-là et pas d'autres? Je vais commencer par répondre pour l'amont et puis Didier répondra pour l'aval et puis on reviendra un peu sur les raisons qui nous ont poussés donc à faire ce choix aussi de la longue durée. Bon, en amont, le 14e siècle, on est médiéviste ni l'un ni l'autre, hein, donc c'est là où je dis c'est peut-être un peu téméraire ce choix de la très longue durée. On aurait sans doute pu commencer avant, là c'est lié, on va dire, plutôt à notre incapacité ou aux limites, on va dire, de notre maîtrise historique que de commencer au XIVe siècle. Et justement, ça nous intéresse d'avoir l'avis des médiévistes sur ce sujet, parce que bon, depuis qu'on a lu des médiévistes qui nous a vraiment beaucoup intéressés. nous semble qu'on aurait pu très bien aussi commencer sans doute avant, mais c'était comme pour poser un pied d'appel, hein, pour utiliser la métaphore du saut en hauteur ou en longueur et pouvoir aller de l'avant sans, en essayant justement d'intégrer à notre réflexion ben, tous les apports des médiévistes qui nous semblaient avoir plus travaillé en fait ce sujet que bien des modernistes et donc, du coup, ça nous semblait devoir enfin, être un effort pour décloisonner aussi les catégories et les périodisations académiques qui sont encore, hélas, me semble-t-il, parfois trop pesantes. Et je vais laisser Didier expliquer pourquoi Laval.
Oui, bah, Laval, je crois qu'on avait trois solutions. La première, c'était de s'arrêter au milieu du 19e siècle. La seconde, c'était d'aller le plus loin possible vers la loi des 8 heures au début du 20e siècle et s'arrêter au début, au seuil des années 1890, nous a semblé un moyen terme intéressant. Parce que autour de ces années, dirons-nous, fin 1880, début 1890, il y a une convergence d'arguments qui plaident en faveur de la construction d'un moment. Pour faire très vite, 1890, c'est quand même l'instauration de la fête du travail et le début d'une réelle popularisation des 8 heures. Mais c'est aussi autour de cette année-là que se construisent, en gros, tous les appareils législatifs pays par pays qui vont donner, comment dire, qui vont orienter beaucoup plus fermement que ça ne l'était auparavant toute la vie sociale en Europe occidentale, puisque même la Belgique, qui était un pays libéral chimiquement pur, va se doter d'une loi sur le temps de travail en 1892. Une seule anecdote, mais elle a quand même une grande signification. Le travail d'Engels sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre n'est traduit en anglais qu'en 1885 et en français précisément en 1892. C'est tout sauf un détail.
Et donc, bon, si je reprends la parole pour expliquer justement ce projet, c'est qu'au fond, ce qu'on a voulu évidemment faire, c'est sortir de l'idée un peu toute faite, évidemment, que le temps compté serait propre à l'époque contemporaine. Et donc, il nous a semblé intéressant de voir comment ben, le temps est compté dans la longue durée de certains rapports de travail et que justement cela fait partie de c'est un élément important des rapports de travail depuis fort longtemps. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'était la volonté de dépasser les barrières chronologiques académiques. Hein. Souvent, les historiens restent un peu trop enfermés dans leur période de prédilection, me semble-t-il, nous semble-t-il. Et puis, donc, finalement, on est parti d'une question très simple, qui était comment est-ce qu'on peut dire que le temps de travail augmente fortement lors de l'industrialisation, ce qui est une hypothèse très couramment énoncée, si on ne sait pas ce qui se passe avant. Donc, partir voilà, de cette question un peu bête et naïve, hein, c'était finalement essayer en tout cas de réinterroger cette idée de l'accroissement de travail lors de la révolution industrielle, quelque chose sur lequel l'historiographie anglaise a beaucoup travaillé, mais assez peu sur le continent. Et puis, et donc de s'interroger sur comment le temps était compté avant et quels pouvaient être les rapports au temps de travail, justement, avant l'industrialisation. La deuxième chose, c'était aussi pourquoi on n'a pas pris, par exemple, 1650, c'est que on ne voulait pas non plus suivre forcément les pas d'une autre hypothèse relativement commune dans l'historiographie relativement récente, celle de la révolution industrieuse, qui est un terme que Jan de Vries a utilisé pour désigner enfin, son hypothèse de l'accroissement du travail de la part des familles européennes à partir des années 1650 pour, selon lui, consommer plus, hein, si je résume à l'essentiel. On ne voulait pas non plus partir du début de l'époque. De l'époque moderne et reprendre les hypothèses, je sais pas moi, de Weber et de bien d'autres sur la différence du rapport au temps entre protestants et catholiques. Et donc, c'est pour cela que voilà, on a voulu aussi faire ce pari de la longue durée pour un peu relativiser toutes ces différentes hypothèses. Qui nous semble malgré tout fort pesante dans l'historiographie.
Merci. La
Et
deuxième. Ah, pardon, Didier.
non, non, mais je voulais simplement ajouter que on a aussi pris grand soin de partir des bons auteurs, c'est-à-dire on a repris le Capital et Marx consacre quand même une cinquantaine de pages vraiment lumineuses sur le temps de travail. Et ensuite, il passe au machinisme et à la grande industrie. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que Marx associe de manière très intime la durée et le contenu du travail, alors que précisément beaucoup d'historiens par la suite, jusqu'à il y a une dizaine d'années, voire même jusqu'à aujourd'hui, ont systématiquement abordé la durée du travail sans s'interroger le moins du monde sur précisément le contenu de celui-ci. Et on a pensé que ça valait la peine peut-être de mener vers l'amont et vers l'aval, justement, la même démarche et de l'éprouver à l'expérience, tout simplement.
Super, merci. Peut-être deuxième idée pour continuer sur cette présentation, après la chronologie, le temps. Finalement, dans votre livre, de qui parle-t-on? Qui sont ces travailleurs et ces travailleuses, en fait, que vous mettez en évidence dans le livre? Est-ce que vous avez fait certains choix enfin, d'en inclure, d'en exclure, d'où, enfin, quels sont les domaines d'activité que vous avez traités? Et peut-être quels sont les espaces aussi géographiques que vous avez pris en compte, et si vous voulez nous dire un peu comment vous avez choisi ces acteurs et ces actrices.
Ouais, donc la première chose, c'est qu'on a essayé de faire feu tout bois, hein, et donc on n'a pas choisi, on va dire, d'exclure quiconque, si ce n'est peut-être hein, quand même les scribes, les clercs, les professions intellectuelles, etc., qui, pourquoi pas, hein, auraient pu tout à fait faire l'objet de cette enquête. Et effectivement, ceux-là, on ne les a pas pris en compte et on ne les a pas inclus dans notre enquête. L'idée, c'était un peu de concentrer notre regard sur tous les types de travailleurs manuels, on va dire. C'est vrai que ce qu'on arrive à saisir le plus facilement, c'est tous ceux qui travaillent pour autrui, que ça soit à la campagne, sur les chantiers, les gagne-deniers, les manouvriers, les gens qui travaillent dans les manufactures textiles, sur lesquels aussi on a plus travaillé, mais aussi dans les verreries, etc. Voyant évidemment des travaux Solène ou ceux d'autres collègues. On a aussi essayé de tenir compte des travailleurs de la mer, par exemple, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément au cœur et on aurait pu dire bien plus de choses, mais bon, on est forcément évidemment limité. Alors, cette part de ceux qui travaillent pour autrui, elle est pas forcément justement aussi limitée que l'on ne pense hein, pour les périodes anciennes, et c'est ça aussi qui nous semble important à dire et à voilà à faire connaître quoi. Et Didier, je te laisse
Oui.
la parole.
Et ensuite, s'est posé aussi quelques questions redoutables. Par exemple, saisir le monde paysan et dans ses relations avec le temps de travail, très franchement, c'est quelque chose qui n'est pas commode. Et de toute façon, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais c'est également, ça n'est pas commode non plus quand il est question des travailleuses, pour employer un terme qui n'est plus usité, ou même les enfants. On sait très bien que on n'a pas réussi à capter notamment toute la part du travail domestique des femmes, j'aurais presque envie de dire, bien évidemment, mais on n'a pas réussi non plus à aborder par leur biais, même par le biais des hommes, tout ce qui relève du travail dispersé. Le travail dispersé, c'est une grande inconnue dans notre ouvrage, tout simplement parce que le temps, pour le coup, n'est souvent pas compté du tout dans l'affaire. Et je voudrais simplement ajouter un mot très rapide sur les enfants. Les enfants également disparaissent dans quantité de zones d'ombre, y compris quand on s'imagine qu'ils sont présents en pleine lumière, notamment au travers de tous les travaux législatifs qui ont cours au XIXe siècle. Alors que quand on fait le compte, et ce qui est étrange, c'est que personne ne l'avait véritablement fait, les enfants concernés par les grandes lois du XIXe siècle, qu'elles soient appliquées ou non, hein, le problème n'est pas là, eh bien ça ne représente jamais plus de à peu près 15% de la totalité des enfants dans la société à un moment donné. Ce qui veut dire que y a quantité de choses qui nous échappent, mais qu'en même temps, étrangement, personne n'a pris grand soin de quantifier tout cela, ce qui est quand même assez curieux.
On passe à une dernière peut-être petite question pour compléter cette présentation. Enfin, petite, non, un peu vaste, mais bon, on verra si on arrive à la résumer. Finalement, quand on veut faire l'histoire de ces rythmes du labeur, ces rythmes du travail, et dans des époques, enfin, dans une époque aussi longue, quelles sont les sources qu'on peut en fait utiliser hein, pour ce type d'études, et comment est-ce qu'on peut les mettre en relation les unes avec les autres pour faire cette histoire des rythmes du travail?
Corinne, je peux
C'est
peut-être
toi.
commencer en disant que d'abord, c'est un travail qu'on a commencé il y a maintenant à peu près une dizaine d'années, hein, puisqu'on a d'abord pris soin d'organiser des journées d'études où certains des auditeurs ont probablement, et des participants ont probablement, où ils étaient probablement présents. Ces journées ont permis de recueillir un certain nombre de travaux. Qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une publication collective aux presses universitaires de Rennes. Et ensuite, on a eu l'occasion de faire une présentation de tout cela dans la revue Genèse, ce qui nous a obligés aussi à tenir compte et prendre le plus grand soin de tous les travaux des sociologues. Et il faut bien dire que les travaux des sociologues nous ont beaucoup apporté quant à l'élaboration de notre questionnement. Quant aux sources, je vais donner la parole à Corinne, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un travail qui est encore en cours. C'est-à-dire, depuis que ce livre a été publié, pour ma part, en tout cas, j'ai déjà trouvé d'autres sources. Il y a moyen d'aller encore plus loin que ce que l'on a bien pu faire, si tant est que nous soyons déjà allés loin. Corinne, vas-y.
Ouais, non, évidemment, on a aussi mobilisé nos propres travaux, là, comme je le disais, voilà, sur le textile, sur la verrerie. Pour ce livre-là, on a aussi fait des dépouillements sur des nouvelles sources, notamment, moi, j'ai pas mal travaillé sur les ateliers, les chantiers des Médicis, parce que voilà, c'est des registres comptables sur presque 150 ans, enfin 140 ans, c'est énorme et assez rare, mais Didier aussi a travaillé sur les mines et des usines textiles de Belgique. Donc pour reprendre la question sur quels espaces sont considérés, on a dit Europe occidentale, c'est vrai qu'il y a une dominante, on va dire Italie, France, Pays-Bas, Angleterre. Angleterre, parce que pas par nos recherches propres évidemment, mais par l'ensemble des travaux, j'ai dit d'abord déjà plus importants qui ont eu lieu sur ce sujet dans les milieux anglo-saxons. Et puis après, juste pour compléter, peut-être il y a une question un peu de méthode hein, qui nous semble voilà, qu'on a discutées, qui n'étaient pas forcément évidentes au début de notre étude. Dans le domaine, dans ce domaine du temps de travail, les historiens économistes ont beaucoup proposé, pour, surtout pour le 19e et 20e siècle, hein, mais parfois pour... s'aventurant aussi dans les périodes plus anciennes, des courbes reconstituant des moyennes de travail annuelles. Et en fait, voilà, on a beaucoup, comment dire, discuté à deux entre, sur le livre de Hans-Joachim Voss pour l'Angleterre, qui utilise une source tout à fait originale, les minutes des procès, avec l'idée, enfin, en utilisant la question qui est posée aux témoins des procès, que faisiez-vous à l'heure du crime, pour, à partir de ça, faire une étude économétrique et reconstituer des moyennes de temps de travail à différentes époques. Et en fait, voilà, selon nous, ça n'a finalement guère de sens pour les périodes anciennes, on ne se prononcera pas pour le XXe siècle, parce que finalement, ces moyennes s'éloignent fortement de ce que tout un chacun ou de ce que chaque individu peut avoir comme rapport au temps de travail. Et justement, alors que il nous semble que finalement, il y a toute une partie de l'histoire économique, économétrique, qui finalement se place dans les pas presque de l'arithmétique mise en place à partir du 17e et surtout du 18e siècle, hein, qui ne cesse de calculer des volumes globaux de travail. Et ce qu'on a voulu faire, nous, au contraire, hein, peut-être par incapacité personnelle à manier ces outils, hein, il ne faut pas non plus nier ses propres faiblesses, mais il nous a semblé en tout cas plus judicieux de saisir, hein, l'arc des possibles, hein, sans écraser sous le poids de moyennes qui nous semblent infiniment discutables, les comportements fortement individualisés des travailleurs et des travailleuses du passé, comme ceux justement aujourd'hui. Hein, et quand Didier parlait de la lecture des sociologues, c'est justement parce que beaucoup insistent sur cette nécessité de... et cette individualisation des temps du travail aujourd'hui. Et donc, au fond, le choix qu'on a fait, ça a été plutôt de saisir l'amplitude des possibles aux différentes époques, de procéder par études par cas, et de faire, dans la mesure du possible, hein, quand c'était possible, le plus possible, une histoire par le bas, même si on sait bien les ambiguïtés que peut receler ce terme.
Alors...
Oui, avec un petit ajout peut-être, un tout petit, c'est que faire des études cas par cas, évidemment, un, c'est très chronophage, et deuxièmement, c'est en définitive très complexe parce que les gens qu'on réussit à attraper et à cerner à un moment donné finissent toujours par disparaître et on ne sait plus ce qu'ils font. Ce qui veut dire qu'ils apparaissent en pleine lumière, on les saisit un jour, 15 jours, 3 mois, ils partent et éventuellement ensuite on va les retrouver. Mais c'est même vrai pour les enfants. Je suis tombé dernièrement sur des registres du personnel concernant les petites filles dans une usine de Roubaix. C'est étrange. Il y a des gens qui arrivent, qui restent 3 jours, qui repartent, qui ne restent que 3 mois et qui repartent. Comment se font ces va-et-vient? Que font-ils dans les interstices entre deux périodes de travail? On n'en sait strictement rien. C'est valable aussi pour les adultes.
Bon, merci à tous les deux pour la présentation un peu courte, mais du coup, on va pouvoir revenir ensemble sur toutes les questions qui peuvent être soulevées. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un premier tour de questions avec ceux qui veulent se lancer. Il y a deux moyens, hein, pour, si vous voulez prendre la parole. D'abord, je vous rappelle vraiment que comme c'est... Enfin, le but, hein, et l'enjeu, c'est quand même d'un apéro libre. Alors, si vous voulez communiquer, mettre vos caméras, tout ça, c'est toujours plus sympathique pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et puis, les deux moyens que vous avez, c'est peut-être D'abord sur Zoom, les réactions, enfin quand vous allez sur la barre en dessous, la réaction, vous pouvez lever la main et du coup on vous voit et on peut prendre vos questions. Et puis la deuxième façon, c'est peut-être de nous écrire des questions dans le chat si vous avez besoin. Voilà, et puis nous on peut les prendre, les lire les unes après les autres. Voilà. La parole est à vous, à qui veut commencer? N'hésitez pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à l'apéro sur vos caméras.
Ça aide le vin en général hein, pour délier les langues. C'est ça qui manque là.
C'est ça.
La bière ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, Nicolas.
Personne n'a de.
Si vous voulez, je peux commencer éventuellement. Justement, pour rebondir sur la question de. Enfin, sur l'intervention de Corinne sur le vin. Il y a la question des pauses qui me semble intéressante et justement sur les repas, les pauses vins qui peuvent être incluses au Moyen-Âge dans les temps de travail réglementés avec le vin périodique ou le vin à certains moments de la journée. Donc je me demandais dans quelle mesure ça intervenait.
Oui, on a essayé justement en se demandant qu'est-ce que c'était qu'une journée de travail. De prendre en compte justement pas seulement l'amplitude horaire, mais aussi toute la question des pauses qui justement nous a semblé essentielle en lisant les travaux des médiévistes, hein, où on voit que justement cette question des pauses, elle est cruciale très tôt et on peut arriver à réglementer les temps de pause et avoir un certain nombre de conflits justement autour de cette durée des pauses, par exemple. Bon, l'exemple, je pense, célèbre pour les médiévistes des vignerons d'Auxerre, là, est-ce qu'il faut qu'ils arrivent quand la cloche commence à sonner ou quand elle finit de sonner? Voilà, des conflits de genre ne sont pas liés seulement à l'amplitude de la journée, mais aussi à la durée des pauses, à leur nombre, à leur temporalité, etc.
Il arrive, quand on part vers le 19e siècle, que les pauses deviennent un véritable élément discriminant à propos du genre. Il y a par exemple des usines où les travailleurs qualifiés qui ont besoin de leurs deux mains prennent leur pause parce que de toute manière, ils ne peuvent pas continuer à travailler s'ils ne disposent pas de leurs deux mains et ceci dans l'hypothèse où ils tiennent à s'alimenter ou à boire. En revanche, il y a des cas, dire que c'est fréquent, j'en sais rien, mais j'ai relevé des cas où les femmes qui étaient dans les travaux, dirons-nous, non qualifiées, ne pouvaient pas bénéficier de leur pause et devaient se substanter en travaillant parce que précisément elles pouvaient s'activer d'une seule main, en quelque sorte. Donc la pause recèle beaucoup d'enjeux, c'en est qu'un parmi d'autres.
Et comme le dit Xavier Vignat, il y a des vingtiémistes qui ont commis de brillants travaux sur les pauses. Ouais. Donc, ça ne fait pas partie du bouquin, puisque justement, on s'est arrêté, comme on l'a dit, à la fin du 19e.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir?
Oui, moi j'ai une question, c'est pour revenir sur les sources, parce que il n'y a pas d'études, il n'y a pas de statistiques officielles, il n'y a rien, je crois, ou pas grand-chose. Et donc, les sources, enfin, vous en avez parlé, vous les avez évoquées, mais est-ce que vous pouvez revenir où est-ce que vous trouvez des choses introuvables là,
Pour quelle période?
Celle dont vous parlez, là, oui. Celle dont on
au
parle
19e, par exemple.
Oui, oui, bien sûr, le 19e, oui.
Alors, d'abord, il y a une source qui est évidemment superbe quand on la trouve, ce sont tous les registres de paix. Par exemple, alors, lesquels ont, par exemple, moi j'ai par exemple travaillé dans des registres de paix dans une usine belge à Gand, l'usine Wortmann, où on a pour chacun le nom, le prénom, le sexe, et puis le poste de travail, et ensuite le temps de travail. Quand on est payé aux pièces, évidemment, l'évaluation du rendement. Et puis enfin,
Roosevelt.
On a aussi le temps, bon, de consacrer. Ça, c'est une chose. Des registres de paix, depuis que ce bouquin est terminé, j'en ai trouvé d'autres. Et il y a moyen, là, de faire quelque chose. Mais ça part de ces registres de paix jusqu'à de vulgaires petits papiers anodins qui sont des, comment on va dire, des billets de révolte, d'indignation que des gens, par exemple, adressent de manière très naïve au préfet du département pour dire leur misère. Alors, je n'ai exploré que ceux des fonds des archives départementales du Nord. J'en ai trouvé un certain nombre, mais qu'on n'a pas pu glisser dans le livre parce que déjà comme ça, le bouquin a fait 440 pages, je crois. Mais c'est une belle source. Et entre les deux, il y a quantité de sources intermédiaires, étant entendu que toutes celles qui, comment dirais-je, donnent des chiffres un peu trop précis sur le temps de travail, par exemple, il faut s'en méfier. Un exemple, toutes les usines avaient leur propre emploi du temps et pouvaient commencer le matin entre 6h et 7h30, par exemple, et donc terminer à une heure différente le soir, l'horaire de chaque usine variant lors de chaque quinzaine. Alors pour ça, il faut quelquefois tomber sur des documents qui infirment ce que l'on remplit à la va-vite quand ce sont des enquêtes ministérielles, par exemple. Et ensuite, il y a évidemment beaucoup de textes. Alors le problème, c'est que, encore une fois, il faut constamment s'en méfier. Je parlais tout à l'heure des femmes. Il est fréquent, je reprends l'exemple de l'industrie textile, que les femmes commencent leur journée une heure avant les hommes parce qu'il faut que la matière première soit prête quand les machines vont se mettre en route, mais officiellement ça n'est jamais dit. On l'apprend au détour d'une protestation, on l'apprend au détour d'un procès, des choses comme celle-là. Et il faut, c'est vrai, il faut beaucoup de patience pour trouver des documents, mais pour les périodes antérieures, c'est encore pire, évidemment.
Oui, donc c'est un peu ce que je disais, hein, on a fait feu de tout bois, il n'y a pas de statistiques officielles, d'accord, mais il y a quand même plein de documents où on est susceptible de trouver des informations sur ces questions, que ce soit voilà, des sources classiques, style les règlements de ce qu'on a l'habitude d'appeler les corporations urbaines, qui peuvent justement parler des réglementations, des horaires théoriques de travail, mais aussi les sources judiciaires qui peuvent justement révéler les conflits qui peuvent exister à ce propos, les sources comptables, que évidemment il faut manier avec précaution, mais qui peuvent aussi, ce que j'ai essayé de faire pour les chantiers des Médicis, mais aussi les écrits personnels, mais aussi les écrits des économistes 17-18e. Bon, voilà, donc on a essayer de faire feu de tout bois pour utiliser les sources les plus variées possibles. Et évidemment, c'est un work in progress, hein. On peut toujours en découvrir d'autres. Et le but, c'était à un moment donné d'essayer de faire une synthèse qui n'a pas vocation à être définitive, loin de là.
Alors, il y a une question dans le chat, mais Corinne, tu as en partie répondu. Auriez-vous des exemples de métiers exercés par ces femmes qui n'avaient pas le droit à la pause? Et tu as parlé donc de profession dans le textile. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce point ou si...
Ce sont toutes les, en tout cas au 19e, dans les usines textiles, ce sont tous les postes de travail pour lesquels il ne faut pas une qualification particulière, c'est-à-dire ne pas être ni fileur ni tisserand. Point. Toutes celles, par exemple, qui consistent à préparer la matière première, à commencer par le cardage, par exemple. À partir de là, alors, on a quand même fait quelques incursions du côté des métiers qui ne sont pas à proprement parler des métiers entre guillemets manuels. On a retrouvé, par exemple, un bel écrit de soi d'une servante, d'une domestique en Angleterre, qui raconte ses journées. Mais en définitive, ce n'est pas très compliqué. Elle est levée avant tout le monde et elle est couchée après tout le monde.
Est-ce que d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment?
Moi, je trouve quelques infos dans le déroulement de grève, mais au plus près du terrain.
Et pour quel siècle vous parlez de quelle époque?
Moi, je travaille, je suis jeune étudiant. Je commence une thèse en reprise d'études, vous l'aurez compris. Voilà. Je travaille sur l'histoire du, enfin, le mouvement ouvrier dans un département rural 1880-1914. Voilà. Ça, c'est mon sujet borné comme ça. Et puis, oui, je disais ça parce que dans les statistiques des grèves qui remontent au niveau national, vous avez la revendication, le temps de travail avant, après, quand les revendications portent sur le temps de travail, les salaires, etc. Mais ça reste des statistiques qui ne sont pas tellement riches. On arrive à trouver un petit peu plus riche dans les relations que les journaux font, la relation que les journaux font de ces mouvements, des mouvements sociaux. Ou alors des textes plus personnels d'ouvriers ou de syndicalistes qui prennent la parole, etc. Et au détour d'une phrase, hop, et on arrive à avoir une petite info qui n'était pas dans les statistiques, quoi. Voilà. Mais c'est... Voilà, c'est pas simple.
Difficile. Maintenant, il y a quantité de revendications, notamment à propos des salaires, qui sont des façons cachées de parler du temps de travail. Ne serait-ce que dans la mesure où la fixation d'une durée horaire, par exemple quotidienne, détermine le seuil à partir duquel on pourra éventuellement être payé en heures supplémentaires. Ou inversement, il arrive que les ouvriers souhaitent travailler plus longtemps, compte tenu de la modicité de leur niveau de vie. Ce n'est pas non plus impossible, hein, ça se rencontre. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile, c'est juste. C'est pour ça que se promener à l'échelle de l'Europe occidentale, ça permet de trouver des sources ici ou là, alors que quand on travaille dans une région bien précise, on n'a jamais que ce que l'on a dans la dite région.
Donc là, avec nous, on a aussi donc, Andrea Caracausi, Alessandro Sanziani et Mathieu Sherman qui sont avec nous, qui sont trois spécialistes en histoire médiévale, histoire moderne et histoire contemporaine. Je ne les ai pas dit dans l'ordre. Alors, Mathieu Sherman est spécialiste en histoire médiévale, pour ceux qui ne le connaissent pas. Andrea Caracausi, histoire moderne, et Alessandro Sanziani, plutôt histoire contemporaine. Et ils ont bien voulu, en fait, donc participer à cet apéro livre pour poser quelques questions à Corinne et Didier. Donc, je ne sais pas, je peux peut-être vous laisser la parole maintenant. Et puis, qui veut, commence. On n'est pas obligé de faire ça par ordre chronologique, vous faites comme vous voulez. Je sens que Mathieu veut commencer quand même.
Ouais, quand même, hein. Il fallait appeler un antiquisant sinon. Alors, en lisant votre livre, j'avais deux tomes de plus à vous faire écrire. J'en retrouve plus qu'un. Et justement, pourquoi vous avez choisi le nom de Labeur dans le titre? Pourquoi Labeur? Parce que justement, je voudrais vous faire écrire sur le vocabulaire du travail, sur la désignation du travail sur un temps long, et on arriverait, je pense, au même résultat sur le fait que tout ce que vous écrivez résonne, comme est intervenu tout de suite François, aux oreilles ou aux yeux d'un médiéviste. Toutes les questions que vous traitez ne peuvent pas être traités de la même façon par les médiévistes, mais ce sont des questions qu'on pourrait se poser justement sur cette question du vocabulaire du travail. Et c'est assez marrant, justement, vers la fin de votre ouvrage, quand vous parlez des réflexions sur les gestes, l'économie d'énergie et autres, et vous dites « on passe à un système ». On passe d'une réflexion scientifique du système musculaire vers le système nerveux, du concept de travail à celui de fatigue. Et on voit qu'au Moyen-Âge, en tout cas, dans mes sources trévisanes, fatigue, c'est aussi le synonyme de travail des certaines fois. Donc, je voulais savoir si vous étiez intéressé par faire la même chose, 13e, je vous baisse un peu le siècle, jusqu'au 19e, sur le vocabulaire du travail. Et je vais retrouver le troisième tome quand vous me répondrez à cette question.
Corinne, tu commences ou je commence?
Vas-y.
Je pense que quand on emploie le mot de labeur, d'abord, il y a rythme et il y a labeur. Dans les rythmes, il y est question de durée, mais dans les rythmes, il est aussi question d'intensité. Et dans le labeur, je pense qu'on entend beaucoup mieux la peine des hommes ou la mise en péril des corps que dans travail. Je ne pense pas qu'on parlera du labeur d'un clerc, tandis qu'on parlera du labeur d'un maçon. Et que dans le labeur, il y a de la sueur, tout simplement, pour faire très court. Parce qu'un des problèmes sous-jacents, et on a continué à travailler ensuite là-dessus, c'est quand même précisément, se méfier de tous les discours qui, d'ailleurs pour tous les siècles, consistent à insister sur l'innocuité précisément du labeur, et plus encore quand il y a les machines. Et c'est bien pour ça aussi qu'on a tenu à essayer d'associer le plus possible la durée et le contenu du travail. Mais c'est vrai que le terme labeur n'a pas été choisi de manière, dirons-nous sommairement, afin d'éviter des répétitions. Absolument pas.
Oui, alors pour répondre un petit peu, peut-être beauté en touche, hein, c'est que effectivement toute la question du vocabulaire utilisé pour désigner ce que nous on appelle travail, c'est évidemment fondamental, et c'est tout un champ d'études qui, là encore, me semble-t-il, a plus été fait par les médiévistes que par les modernistes, peut-être. Enfin, je pense au volume collectif là de Beck, enfin dirigé par Beck, Bernardi et Feller, sur rémunérer le travail, où il y a toute une réflexion sur justement les différents vocables que l'on peut trouver dans les textes. Je dirais que c'était pas forcément l'enjeu de ce livre-là, quoi. Donc le tome supplémentaire, il viendra dans une autre réflexion peut-être sur
une autre vie.
Sur le travail, pas forcément dans une autre vie, on n'espère pas que ça soit dans une autre vie, mais bon, là, on a un peu, on est passé sur cette question qui est évidemment essentielle, mais qui aurait pu être envahissante par rapport à l'objet même de ce qu'on voulait faire, quoi, qui était quand même une synthèse, et voilà.
Justement, là, je trouve que vous rompez avec la généralisation, mais en la remplaçant par une généralisation plus précise, fondée sur les sources, les bonnes études, je trouve. Et je trouve aussi que vous mettez bien en avant, et toujours là, pour un médiéviste, ça va aussi, le fait que les ouvriers, on va dire, ont toujours une marge de manœuvre. Et je trouve assez intéressant dans les réglementations, et notamment dans celle que vous citez sur l'arsenal de Toulon sous Louis XIV. Alors, juste, vous savez à peu près combien il y a d'employés, d'ouvriers ou pas dedans?
Ah bah, les arsenaux sont les chiffres en tête, mais c'est plusieurs centaines, voire milliers d'ouvriers. Oui. Ça fluctue pas mal en fonction, évidemment, des besoins de la construction navale. C'est la thèse de Julien Saint-Romain sur le sujet. Hein, mais en plus, il y a plein de types de travailleurs dans les arsenaux, puisqu'il y a aussi dans cet arsenal, en tout cas, des travailleurs qu'on dirait contraints. Mais c'est...
Ben c'est justement là que ça m'a amusé quand on parle de réglementation précise, on nous dit l'entrée des ouvriers dans l'arsenal commence après le coup de canon de Diane, au point du jour. Ça, et finit au coup de canon de retraite du coucher du soleil. Alors, sur le commencement, je me disais, ça laisse pas mal de temps aux traînards Le temps qu'il rentre. Après, coup de canon de la fin, il n'y a pas de problème. Tout le monde lâche ses outils et va boire un coup. Par contre, le premier coup de canon, je trouve que l'employé a une certaine... il peut facilement traîner des pieds avant de rejoindre son poste de travail s'il n'y a pas de contremaître derrière lui. Ça me faisait penser à la façon dont j'allais reprendre mes élèves quand j'étais dans le secondaire, entre la première et la deuxième sonnerie. Donc, et alors, pour, est-ce que j'ai encore du temps ou pas juste?
Ouais, peut-être une ou deux minutes si
pas on. Juste, alors juste on pour poser Corinne sur le temps long, bah, je trouve que finalement, bah, vous faites ce qu'avait demandé de faire Jacques Le Goff, un long Moyen Âge. Mmh. Puisque c'était un long Moyen Âge entre la fin, enfin, 10e siècle jusqu'au 19e siècle. Et je trouve à chaque fois que, alors comme on m'a obligé dans mon université, je dirais rien, à faire le thème de première année qui fait justement sur le temps long, je m'aperçois de plus en plus que ce que disait Le Goff sur la continuité Moyen Âge, époque. 19e siècle avant l'industrialisation tient très bien le coup. Donc, je vous invite à prendre tout le temps de cet homme-là.
Et tient encore mieux en matière de rémunération et de mode de rémunération.
Voilà le troisième top que je voulais vous faire faire.
Oh, bah on a du boulot, quoi. Ouais.
Mathieu, je m'acharne à dire à Corinne qu'un vrai sujet, c'est l'histoire dans le temps long des modes de rémunération.
Est-ce que... Merci Mathieu. Est-ce que... Je ne sais pas, qui veut prendre la parole entre Alessandro ou Andrea?
Le moderniste.
Continuons.
On va à l'époque moderne. Donc, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup Corinne et Didier pour ce livre. C'est vraiment un livre très important. J'ai participé dans les 2010 aux premières rencontres et je suis vraiment très content de voir ce livre publié parce que je sais que vous avez travaillé dans cette année beaucoup pour écrire ce livre. Et j'avais beaucoup de questions pour l'histoire, mais je pense que ce livre c'est aussi important pour l'actualité, pour aujourd'hui. J'ai lu ce livre et j'ai pensé que vous avez dit beaucoup de choses vraiment très importantes pour aujourd'hui. Quand nous pensons au télétravail, si nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes en train de changer les modes d'organisation de la production, les modes de production et les modes d'organiser le travail. Donc, je pense que votre livre c'est aussi important pour ce débat. Et alors, j'ai quelques questions que ce n'est pas d'histoire, mais c'est vraiment très général. La première question, c'est, vous avez discuté le fait que le temps n'est pas déterminé par la technologie, mais par exemple, la manufacture détermine la technologie ou la révolution industrielle. Et alors, le temps n'est pas déterminé par des forces naturelles. L'idée que les conflits sont importants, que les rapports entre donneurs de main-d'œuvre, de travail et de main-d'œuvre, c'est important. Et donc, mon question, c'est surtout sur les déterminants du temps du travail et sur l'erreur que les conflits ont pour déterminer le temps de travail. Et alors, comment on peut, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'organisation de ces conflits, mais aussi comment on peut faire les collectifs pour disputer les temps de travail. Donc, c'est vraiment une question qui garde pas seulement l'histoire, mais qui pense aussi aujourd'hui pour chercher d'oublier l'idée que nous sommes déterminés par les forces économiques et que la productivité est déterminée par seulement la technologie ou des forces extérieures au lieu de travail. Et donc, à vous.
Oui, tu y vas.
Didier, vas-y.
Ah, Je pense que, en tout cas pour le 19e siècle, ce qui est évident, mais Bénédicte Reynaud et Patrick Fridançon, dans leur livre sur les temps de travail au 19e et surtout 20e siècle, on avait déjà parlé, c'est qu'il n'y a pas un seul déterminant du temps de travail et que les luttes ouvrières et autres autour du temps de travail ne sont pas, comment dirais-je, la seule raison qui conduit à, par exemple, une diminution du temps de travail. Si on prend le 19e siècle, ça vient aussi de la part de tous ces philanthropes, hygiénistes et autres qui sont préoccupés par l'état de santé des populations et notamment des jeunes soldats, des jeunes conscrits. Mais ça vient aussi d'abord des travaux théoriques de tous ceux qui sont ingénieurs, physiologistes et autres et qui travaillent sur les capacités de l'individu à aller à la limite de ses possibilités sans être épuisé pour autant. Et leurs travaux ont quelque analogie avec ceux qui sont menés à propos des chevaux, par exemple. Et ça renvoie aux périodes antérieures, et Corinne en dira deux mots. Et puis, un des principaux promoteurs, quelque part, de la diminution du temps de travail, de manière assez paradoxale, et c'est quand même le patronat, parce que tout un débat a lieu dans le dernier tiers du 19e siècle autour de la dernière heure. Est-ce que la dernière heure permet de gagner de l'argent ou est-ce qu'au contraire, elle ne coûte pas de l'argent? Et quantité de patrons se livrent à des démarches tout à fait pratiques pour montrer à leurs confrères qu'il vaut mieux, par exemple, travailler 10 heures ou 11 heures plutôt que 12 heures n'importe comment. C'est-à-dire qu'eux aussi associent la durée et l'intensité pour étudier quelle est la solution la plus rentable. Et la conjonction du tout, associée évidemment au changement de mentalité et au désir croissant de loisir, même si c'est encore un grand mot, c'est un peu la cristallisation du tout qui conduit à des évolutions du temps de travail. Alors, les luttes ouvrières et autres sont un ferment d'évolution, mais ça n'est certainement pas le seul.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Didier très, très rapidement, évidemment, je pense que toutes les formes de conflictualité autour du temps de travail, elles sont nombreuses, hein, justement, depuis la fin du Moyen-Âge qu'on a pu saisir, montrent des enjeux, des acteurs qui sont potentiellement à chaque fois différents et des luttes qui ne sont pas toutes, en tout cas, dans le sens attendu, convenu, etc. Il peut y avoir de la part de ceux qui ont besoin de travail aussi, des luttes pour avoir du travail ou des luttes pour des horaires qui leur conviennent ou alors des employeurs qui ne vont pas forcément uniquement tenter d'augmenter les temps du travail et d'augmenter la productivité du travail. Je pense que, par exemple, il y a une belle étude sur les papetiers, l'industrie papetière, qui est évidemment super importante en liaison avec le développement de l'écrit, etc. Dans la papeterie, il y a à la fois des horaires bien définis, des horaires complètement décalés, revendiqués par les ouvriers, dont on a du mal à comprendre la raison, en fait. Hein. Ils commencent à travailler à 3 heures du matin et ils s'arrêtent donc fort tôt, on va dire, dans la journée. Et malgré tout ce qu'essayent de faire les employeurs, ils n'arrivent pas à les faire sortir de cette coutume. Il y a aussi une réglementation importante et des conflits autour de quelle est la quantité de travail attendue dans un temps donné. Mais les, les pas petits, en tout cas ceux qui, par exemple, font des articles de qualité, ben, ne veulent pas forcément que les ouvriers aillent trop vite. Hein, donc, voilà, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tous ces enjeux autour des conflits qui ne sont pas forcément ceux classiques auxquels on s'attendrait. Et effectivement, je pense que c'est important pour réfléchir aujourd'hui, comme tu disais, sur ces multiples temporalités du travail qui caractérisent aussi les sociétés contemporaines et avec des enjeux qui sont bien plus complexes sans doute que ceux auxquels voilà, de prime abord, auxquels on peut penser de prime abord.
Alessandro, tu veux prendre la parole ?
Bon, je vais être beaucoup plus apéro. Donc ça, rien à dire. C'est très bien, vous étiez savant, moi je vais jouer l'apéro. Je bois même une bière, c'est une rousse en honneur de Corinne, évidemment. Donc, et en plus, c'est une bière locale. Je suis dans les Alpes et sous la bouteille, je vais parler de ça, sous la bouteille, il y a un éléphant. Parce qu'il paraît qu'Hannibal était passé avec ses éléphants par là. Alors, qu'est-ce qu'il a à voir, l'éléphant, là-dedans ? C'est que ma sensation est que...
C'est parti, on te voit plus.
Quoi ?
On te voit plus, mais bon, c'est... Enfin, tu t'es caché.
C'est pas grave. Okay. J'essaie de voir, voilà, bon. J'essaie de parler, donc et puis je vais réapparaître. Bon, mon impression est qu'il y a un éléphant dans la baraque, dans votre baraque à vous. Et c'est un éléphant innommable et innommé. J'ai lu, je le cherchais. Et puis, comme j'ai le PDF, je me suis mis à chercher l'éléphant dans les mots-clés. Et l'éléphant innommé et innommable apparaît trois fois. Deux fois par rapport à Weber et une fois par rapport à E.P. Thompson. Et chaque fois, c'est une ligne, parce que c'est juste, Weber a dit, Thompson a dit, sur ça. Bon, l'éléphant, c'est le capitalisme. Alors, ma question est mais vraiment très simple. Comment écrire une histoire du travail, du temps de travail, sans le mettre en relation avec le capitalisme ? Il n'est pas dans le bouquin. Et ma question est, pourquoi il n'est pas là ? Surtout avec une telle périodisation, qui commence au Moyen-Âge et ça arrive jusqu'au 19e, mais tout ça, c'est le capitalisme. Hypothèse numéro 1. Comme la droite, vous pensez que le capitalisme n'existe pas. Il y a juste les entrepreneurs et pas le capitalisme. Je ne crois pas, je vous connais. Hypothèse numéro 2. Comme la gauche, vous pensez qu'il existe, mais il vaut mieux ne pas le nommer. On a alors l'économie de marché, les marchés, le libéralisme, l'industrialisation, mais pas le capitalisme. Hypothèse numéro 3, je ne sais pas. Alors, donc, ce que je voudrais pas vous, ce n'est pas justement de dire Weber, on est contre. C'est pas d'associer pro-industrie à industrialisation, ça on est bien d'accord, c'est pas le capitalisme, c'est pas que ça, le capitalisme ne se résume pas à ça. Et du coup, vous avez certes des cas individuels, vous avez des villes et tout, mais quel est le lien entre votre histoire et le capitalisme? Point, fin de la question. J'essaie de réapparaître parce que sinon là, je vois rien. Question d'apéro. On fait quoi avec le capitalisme là, avec mon éléphant?
Bon, Corinne, je suppose que tu vas me laisser commencer. tu as raison, tu mets le doigt sur quelque chose qui, en tout cas en ce qui me concerne, m'a beaucoup embêté. Je pense que inconsciemment. Ou inconsciemment, ou un peu consciemment, parce qu'on se l'est dit, on a pris, ou on a essayé de prendre nos distances avec Marx, parce que, quelque part, pour tout dire, je l'ai relu encore aujourd'hui, Marx, et je me suis dit, mais mince, pourquoi a-t-on fait ce bouquin ? Parce que, à bien des égards, l'essentiel s'y trouve. Et j'ai un peu l'impression que, très modestement, on est un peu reparti sur ses traces pour vérifier si ce qu'il avait dit était précisément juste. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, par exemple, je n'ai pas parlé à propos de la Belgique de capitalisme, j'ai dit du libéralisme chimiquement pur. Très franchement, c'était une manière de contourner le mot. Je ne l'ignore pas. Maintenant, c'est vrai que on aurait dû, tu as raison, introduire beaucoup plus ce mot et une réflexion autour du capitalisme. Et je dirais qu'il y a par exemple un personnage auquel je pense et auquel on n'a pas fait assez allusion ou dont on ne s'est pas assez inspiré, c'est par exemple André Gortz. Et quantité d'auteurs de ce type qui précisément ont mis beaucoup plus en relation qu'on ne l'a fait les conditions de travail, mais aussi les conditions d'existence avec le régime économique qui est encore le nôtre, tout simplement. Tu as tout à fait raison. Mais je pense que ce n'est pas simple que de travailler à l'ombre portée de Marx. Et ce n'est pas simple du tout. Alors, ma réponse vaut ce qu'elle vaut, mais ça veut dire ça. Pour ma part, je revendique le droit d'avoir été intimidé.
Je ne sais pas si Corinne est d'accord ou pas. Je sais pas.
Ouais, je revendique le même droit, mais tu as tout à fait raison, évidemment. Je pense que la question, évidemment, mérite d'être posée, mais d'un autre côté, ne pas la poser, c'est sans doute une solution de simplicité pour nous, hein, mais je ne sais pas dans quelle mesure on serait tous d'accord pour dire que dès le Moyen-Âge, on se trouve dans le capitalisme, voilà, avec un grand L et un grand K majuscule. Donc voilà, c'est, de là vient sans doute cette innommée et cette innommable peut-être, mais bon, tu as tout à fait raison. Et même si je suis pas tout à fait d'accord avec Didier sur, même si j'aime bien Carlit, je pense qu'on s'est quand même aussi on n'a pas fait que retrouver cette retour. Travailler non. Sur ses traces, voilà. Loin de là, je dirais même, mais bon. Non, comme d'hab, tu as raison.
Alessandro, tu veux poser une deuxième question à Perrault ou...
Non, c'est très bon. J'avais une seule question, ça me suffit, je pense. On ne va pas la résoudre rapidement, mais moi je pense juste que parfois, il faut se mouiller. Par moment, j'ai été critiqué de plusieurs points de vue, mais il y en a un dans lequel je me suis lancé, parce que je pense qu'il faut recevoir des coups. C'était déjà l'époque de concurrence, et puis après, sous coercition et tout, on disait, oui, mais alors, c'est quoi le capitalisme? À un moment donné, je me suis mouillé. Évidemment, beaucoup de monde peut être en désaccord, mais au moins, je pense qu'il faut tôt ou tard se poser la question parce qu'elle a été trop évacuée pendant trop de décennies. Justement, pour les raisons que je disais, ce n'est pas que la droite, c'est la gauche, tout le monde évacue le mot. Et je pense qu'il faudrait le repenser un peu. Il y avait énormément de volume sur comment le définir. Il peut y avoir Marx. Tu sais que Zambard ou Brodel, moi je les suis plutôt, ils ont toute autre définition. Justement, ça commence 12e, 13e et il n'y a pas de travail salarié dedans. Moi, je suis plutôt de ce côté-là. C'est parce que j'avais mis, pour moi, les esclaves font partie du capitalisme, ils ne sont pas en dehors, tu vois, aux États-Unis. Mais du coup, c'est prendre des positions là-dedans. Et du coup, pour moi, c'est assez important de dire, tu vois, quand on commence au 13e, c'est peut-être oui, non, c'est du capitalisme, c'est une autre forme de capitalisme, j'en sais rien, tu vois, je ne suis pas médiéviste. Mais du coup, comme Marx ne travaillait vraiment pas sur ça, et comme après la question a été évacuée, ou comme auparavant on associait le capitalisme que aux prolétaires et aux salariés, et que depuis on a vraiment modifié en mettant les esclaves et tout, du coup, tôt ou tard, voilà. Moi, je trouve que via le temps de travail, c'est une vraie question. Ce n'est pas facile, mais c'est une vraie question. Et surtout si vous commencez au Moyen-Âge, je trouve que ça serait vraiment intéressant de vous mouiller. Ce n'est pas facile, mais à mon avis, si vous ne le faites pas vous, je ne sais pas qui. Je voudrais revenir à des questions fondamentales.
Quand on fera les trois volumes, les autres trois volumes que Mathieu nous a commandés, là, on se mouillera.
Le tome 4, du coup.
Je vois apparaître dans mes Judith à l'écran, et pour ma part, je dirais que la fabrication de l'innocuité de l'effort excessif, d'une manière générale, ou dans des conditions abominables, peut être une entrée pour définir le capitalisme dans toute sa barbarie et la manière dont on peut sacrifier des gens sur l'autel du profit. Et c'est évidemment un sujet sur lequel il est facile de broder, mais pour avoir encore lu il n'y a pas très longtemps des débats à l'Assemblée nationale en 1872-74 en France, j'avoue que j'ai trouvé, comment dire, que l'association du capitalisme avec le temps de travail, et entendu les rythmes, pardon, du labeur, et pourquoi pas la petite enfance, c'était une forme de barbarie particulièrement raffinée. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait dû employer beaucoup plus le mot, et l'informatique est redoutable pour trouver les faiblesses d'un texte.
Alors, il est 19h07, on avait compté sur une petite heure. Il y a une question, il me semble, qui reste dans le chat et qu'on n'a pas posée. François, est-ce que tu l'as...
Oui, j'ai la question. Donc, c'est pour Jean-Paul Richer qui demandait, a-t-on des éléments de comparaison avec la durée du travail en milieu paysan? Je crois que Didier Terrier avait abordé très rapidement la question, mais s'il peut souligner des éléments qu'il a quand même trouvés, ou si Corinne veut rajouter.
Sur le monde paysan, ce qui est d'abord extraordinaire, moi je le dis comme je le pense, c'est que les ruralistes contournent continuellement la question, au moins pour le 18e et pour le 19e siècle. Est-ce que dans les campagnes en 1850, on travaille plus dur qu'on ne le faisait en 1750? Personne ne se pose la question. Indépendamment du fait de la résoudre, quasiment personne, enfin quelques... Si, je connais quelques personnes qui se posent aussi la question, mais elles sont bien peu nombreuses. Et on a essayé, alors on n'est pas ruraliste, hein, ni l'un ni l'autre, et pourtant on s'est mouillé, on a contribué à une publication collective en Suisse, où on a essayé de montrer que dans les campagnes, en prenant d'un côté le travail dispersé à domicile et de l'autre, l'agriculture qui se veut de plus en plus intensive, c'est ça, et bien les gens comptaient de plus en plus, comptaient de moins en moins, je dirais, leurs efforts, justement. Mais encore une fois, c'est étrange parce que cette question, elle est évacuée, mais quand je dis ça pour les ruralistes, lorsque l'on lit tous les travaux qui ont été faits, par exemple, autour, mettons même de l'industrie concentrée mécanisée, pas grand monde ne s'interroge sur le caractère croissant ou décroissant de la pénibilité au travail. Pour ma part, par exemple, je serais assez enclin à penser qu'une petite fille qui travaille dans une filature, bon, j'ai passé beaucoup de temps dans les filatures, en 1890, l'a beaucoup plus dur que sa grand-mère. Parce que le temps est moins poreux, parce que les machines ne tombent plus en panne, parce que la surveillance est beaucoup plus sophistiquée, etc., etc., etc. Eh bien, on peut prendre tous les grands travaux qui ont été accomplis dans ce domaine, et nulle part on ne voit assez curieusement ce genre d'interrogation. Probablement parce que c'est toujours très difficile de dissocier ce qui est de l'ordre de la machine et de ce qui est de l'ordre du travail de l'homme dans les gains de productivité, mais il n'en demeure pas moins que les cadences, par exemple, vont de plus en plus vite. Je rappelle quand même qu'il y a des fois où on a des textes qui sont des petits miracles. Là, par exemple, je suis tombé sur un ingénieur qui visite l'usine Barois, un tissage à Lille en août 1848. Il décrit le travail. Eh bien, un tisserand chez Barois, pendant 13 ou 14 heures, accomplit 7 manipulations importantes à la minute, pendant 13 ou 14 heures. C'est effrayant. Un fileur devant une self-acting va parcourir 30 km par jour. On comprend qu'on n'est pas fileur très longtemps dans sa vie. Eh bien, toutes ces choses-là, et pourtant il y a moyen de les trouver parfois dans les textes où il y aurait, me semble-t-il, moyen de les reconstituer. J'ai maintenant l'habitude, je radote, de les reconstituer. Il suffit simplement de se mettre soi-même devant les machines et d'apprendre. Et on s'en rendrait vite compte.
Merci. Alors, il y a peut-être quelques remarques encore sur le chat, je ne sais pas, avant qu'on clôture cette formule apéro-livre premier volet. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut rajouter quelque chose avant la fin? N'hésitez pas, vous avez encore du temps, si jamais vous voulez.
Pour les 5 volumes à écrire, on leur donne combien de temps? Parce que c'est une question de rythme du labeur. Je ne sais pas, 15 jours, ça ne suffit pas.
Non. Mais ce qui est assez étrange, c'est que ceux qui parlent des rythmes du labeur et déplorent parfois des horaires absolument pas possibles ne comptent pas leurs heures.
Ah, un nouveau message. Ah, pour les dédicaces, alors là, c'est un peu compliqué de fait, hein, en virtuel, c'est pas tout à fait le bon format. Bon, en tout cas, on espère que c'était plutôt sympathique, même à distance, hein, et puis on essaiera de voir si on peut renouveler la formule. Bon, en tout cas, l'idée, c'est de la renouveler tant qu'on ne peut pas la faire dans un bar ouvert, avant la réouverture des bars. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi l'apéro livre aussi nombreux. Didier, tu voulais rajouter
quelque chose ? Je voulais simplement terminer peut-être par une anecdote. Corinne n'était pas avec moi, alors j'ai été le seul à avoir les honneurs de la grande presse internationale, c'est-à-dire La Voix du Nord, édition locale, et qui avait été au courant de cette affaire. Et, bon, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est quand je fais mon petit tour dans la commune où j'habite, au marché, de rencontrer plein de gens que ça intéressait, étrangement, et qui m'ont accosté parce qu'on parlait des rythmes du labeur. Bon.
Et Corinne ?
Ben non, je voulais juste dire que le prochain, normalement, est prévu, en fait, puisque ça sera autour du livre de Alessandro Santani.
Ah, mais oui, je manque à tous mes devoirs. Ah,
la date est déjà un petit peu avancée ou pas ? Ça serait normalement en mars, hein.
On l'a fixé, on s'était accordé par mail, donc je vais te renvoyer, c'était le 11 mars.
D'accord. Mmh. Donc, voilà, du coup, je manque à tous mes devoirs de présentation, donc rendez-vous pour le 11 mars. J'espère qu'il n'y a personne qui s'est déconnecté entre-temps, tout va bien, donc c'est bon.
Ce serait bien qu'on ait son PDF.
Oui, pour faire cibler des recherches de mots-clés. Donc, rendez-vous pour le prochain apéro le 11 mars autour du livre d'Alessandro.
De toute façon, on l'annoncera sur la liste, évidemment.
Et